je ne pense pas qu'en Égypte il y ait eu une révolution. L'instance qui aujourd'hui tente de gérer, d'organiser, de diriger la transition reste ce qu'on appelle le Conseil suprême des forces armées. Et les forces armées, eh bien, depuis la chute de la monarchie en 1952, a toujours été partie au pouvoir. La deuxième chose, c'est la capacité d'influence des États-Unis au Moyen-Orient. Elle est plutôt en déclin, mais elle est encore très importante. Pour de bonnes ou de mauvaises raisons, ni l'Union européenne, ni la Russie, ni la Chine plus lointaine, ni aucun autre État émergent n'est aujourd'hui capable d'avoir la même influence. Donc c'est un déclin relatif de son influence, un déclin réel, qui probablement sera partiellement amplifié par ces profonds mouvements qui effectivement traversent le monde arabe. Qu'on s'en félicite ou qu'on le regrette, c'est un fait. Les États-Unis n'ont pas perdu tous leurs leviers d'influence dans cette région du monde, c'est évident.
Qu'en est-il de la Syrie, secouée par un mouvement de révolte? Washington avait initié un rapprochement historique ces derniers mois avec Damas. Est-ce que là encore, cette déstabilisation peut nuire à la politique étrangère américaine?
En tout cas, il est évident que le profond mouvement de contestation qui perdure en Syrie depuis maintenant 2 mois contribue à de nouveau raidir les positions et les relations entre Damas et Washington. Mais en même temps, alors que la répression qui se déroule, qui est tout à fait abominable, on peut constater une certaine retenue de la part des États-Unis, qui certes condamnent verbalement, mais en même temps, il n'y a pas de résolution qui a été portée par les États-Unis au Conseil de sécurité condamnant la Syrie. Donc on voit qu'il y a une certaine retenue qui probablement s'explique par le fait que Washington est parfaitement conscient que Damas peut actionner des alliances locales, notamment le Hamas palestinien, le Hezbollah libanais, qui pourraient créer des points de fixation, des points de tension aux frontières nord et sud de l'État hébreu. Puis par ailleurs, nous savons aussi la proximité, le partenariat stratégique qui existe entre la Syrie et l'Iran. Et les Américains ont conscience que si les pressions étaient trop fortes sur Damas, alors cela renforcerait encore cette alliance stratégique entre les Syriens et les Iraniens. Et ça, ils s'en méfient beaucoup. Leur but aux États-Unis, c'est au contraire de tenter de réduire la portée de cette alliance stratégique entre la Syrie et l'Iran.
Alors les pays du Golfe sont eux aussi secoués par un mouvement de contestation ou de révolte. Est-ce que cette déstabilisation éventuelle des pays du Golfe profite avant tout à Téhéran?
Il y a 2 pays dans la péninsule arabique qui ont connu des mouvements de contestation, c'est Bahreïn. Malheureusement, le mouvement de contestation a été vite réprimé. L'autre pays qui est concerné, c'est le Yémen. La situation n'est pas réglée. Le président Ali Abdallah Saleh est toujours très contesté, mais reste au pouvoir, s'arc-boute au pouvoir, ça c'est un fait. Les mouvements de contestation tels qu'ils se sont développés ne profitent en quoi que ce soit aux Iraniens, dont je rappelle au passage qu'eux-mêmes, en Iran, sont traversés par des mouvements de contestation, mais aussi par une profonde crise politique au sommet même de l'appareil d'État iranien. Donc pour l'instant, je crois que les Iraniens ont suffisamment de problèmes à résoudre en interne pour essayer de semer l'agitation dans la région.